Docteur Sylvie Dugas, qui est conseillère à l'ARS Bretagne.
Merci. Alors, donc je suis Sylvie Dugas et je coordonne la thématique santé mentale pour l'ARS Bretagne. Et donc, voilà, quand l'ANAP nous a sollicité pour faire partie de l'aventure et être une des trois régions expérimentatrices, on a répondu positivement parce que les objectifs du projet proposé étaient très convergents avec ceux de l'ARS. On avait en effet, pour le PRS 2012, décidé, fait le choix d'aborder la santé mentale de façon globale et non pas saucissonner avec la psychiatrie d'un côté, le handicap psychique de l'autre. Les difficultés de parcours avaient été pointées comme un problème absolument majeur dans les travaux d'élaboration du volet santé mentale du PRS. Et donc, on avait essayé d'identifier des orientations pour avancer dans ce domaine-là, et notamment en privilégiant les soins ambulatoires, les accompagnements en milieu ordinaire, et puis en essayant de travailler les interactions, les liens entre professionnels de la psychiatrie, du premier recours et puis acteurs socio-médico-sociaux. Et donc dans ce contexte-là, pour nous, le projet ANAP, c'était une opportunité de pouvoir passer de la théorie à la pratique sur un domaine qu'on pressentait bien pas simple, celui des parcours, avec un soutien méthodologique de l'ANAP et en ayant la possibilité d'échanger avec deux autres agences, deux autres ARS. Comme c'était un projet expérimental, on a choisi de le faire sur un petit territoire. Voilà, vous voyez la carte à droite de la Bretagne et le territoire projet pour cette expérimentation, c'est la zone qui est colorée sur la droite et qui correspond en fait à trois secteurs de psychiatrie du centre hospitalier Guillaume Régnier, qui est le principal centre hospitalier de psychiatrie de l'Ille-et-Vilaine. Alors, ces trois secteurs de psychiatrie, forcément, ça fait sens pour les acteurs de la psychiatrie, mais ça faisait sens aussi pour les acteurs socio-médico-sociaux, dans la mesure où le CHGR avait refait son découpage sectoriel en 2009 en tenant compte des territoires d'action sociale. Projet expérimental, donc, comme l'a dit Corinne, construction progressive de la méthodologie et des outils qui sont maintenant disponibles. Mais comme tu disais, on a un petit peu essuyé le plâtre, mais c'était aussi intéressant de voir comment on pouvait avancer sur ce sujet-là ensemble. On a donc mis en place une démarche projet sur deux ans, 2014-2015, avec, comme le disait Corinne Martinez, un pilotage du coup qui était un pilotage ARS avec le support, l'appui de l'ANAP. Et donc, au niveau de l'ARS, on a mis en place une petite équipe projet. Et puis, bien sûr, un comité de pilotage qui associait les principaux acteurs concernés par la santé mentale sur le territoire projet. Et puis, surtout, un groupe projet, puisqu'on est, là sur une démarche participative. Et donc, le groupe projet était constitué de fait de l'ensemble des acteurs du territoire projet concernés par la santé mentale qu'on avait invités. Alors dans l'encart à droite en bas, vous avez la liste plus précise des acteurs du territoire projet qui ont été impliqués. Mais donc en fait, c'est à la fois bien sûr les représentants d'usagers et de familles, mais aussi les professionnels des différentes structures concernées par la santé mentale. Alors, voilà, la médecine de premier recours, médecine générale. Donc on avait associé les trois maisons de santé pluridisciplinaires du territoire projet, les établissements de santé spécialisés en psychiatrie, mais aussi établissements généraux, les acteurs sociaux, médico-sociaux, les acteurs du logement, très important, les acteurs de l'insertion. On avait associé le CREAI et puis les acteurs institutionnels au-delà de l'ARS avec le conseil départemental et la MDPH. Alors, le groupe projet, il a réalisé un travail collectif. On a réalisé un travail collectif sur ces deux années avec une première étape de diagnostic partagé, centrée donc sur les dysfonctionnements du parcours, en partant des portes d'entrée de la rosace qu'a décrit Corinne Martinez, ces cinq portes d'entrée. Et pour chaque porte d'entrée, en se posant la question, quels sont les principaux problèmes de dysfonctionnement quels sont les principaux dysfonctionnements qu'on a sur le territoire en matière de parcours, quelles sont les principales causes, comment on peut essayer d'analyser ça et quelles sont les pistes de travail pour essayer d'améliorer les choses. C'est important, à ce niveau-là, les représentants d'usagers et de familles ont été présents tout au long de la démarche, mais je trouve que leur rôle a été particulièrement important à cette étape-là pour bien ancrer la réflexion sur le diagnostic, la réflexion concrètement sur les difficultés de parcours des personnes, pour ne pas repartir sur d'autres schémas. Ensuite, après cette étape-là, plan d'action priorisé, donc une étape de priorisation de voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Et c'est une étape qui est importante, mais qui n'est pas simple. On a souvent tendance à identifier énormément de pistes, énormément de choses, et puis il faut prioriser pour pouvoir être efficace, enfin, essayer de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui nous paraît prioritaire pour essayer vraiment d'avancer. C'était d'autant plus important que là, de nouveau, on était dans une démarche expérimentale, donc on avait en gros un an de mise en œuvre. Et donc il fallait essayer d'avoir des actions qui à la fois permettent de montrer des choses, de continuer à mobiliser les gens, donner à voir et en même temps qu'ils soient efficaces, structurantes. Et puis ensuite, on passe à la mise en œuvre. Et là, c'est un travail de responsabilisation, puisque l'idée, c'était chaque action retenue, il y avait un pilote d'action, donc un acteur qui pilotait l'action et qui pouvait travailler avec un petit groupe d'acteurs, de professionnels. Donc, on a les travaux... Les travaux ont porté sur des sujets assez différents. Les actions... concernés, touchaient à la mise en œuvre d'une formation croisée, le processus d'évaluation du handicap psychique, mais aussi des travaux sur les critères d'admission en ESMS, de transmission d'informations MDPH-ESMS, sur les GEM, sur l'organisation de l'activité des CMP, les situations d'hospitalisation long cours, les compétences psychiatriques au sein du C15 avec une formation et puis l'élaboration de courriers types entre médecins de premier recours et psychiatres. Voilà, ça, vous voyez que ça a porté sur un panel d'actions assez diversifié. Il y a deux actions, les deux qui sont en bas, qui ont un petit point d'exclamation rouge, qui n'ont pas pu être faites en fait. Elles n'ont pas pu être développées parce que les professionnels essentiels pour les développer n'ont pas eu la disponibilité nécessaire pour le faire. En ce qui concerne les courriers types entre médecins de premier recours et psychiatres, bien les professionnels des maisons de santé pluridisciplinaires n'ont pas été disponibles pour travailler vraiment concrètement cette action, bien qu'ils l'aient identifiée comme quelque chose d'important. Pareil sur les compétences psychiatriques au sein du C15, le psychiatre qui était en charge des urgences n'a pas pu avoir la disponibilité nécessaire à ce moment-là, à cette période-là de sa vie professionnelle pour pouvoir le faire. En revanche, le reste des actions ont été mises en œuvre, développées. Je ne vais pas détailler les actions, mais peut-être quelques-unes simplement, d'un mot, dire que la formation croisée, ça nous paraît être quelque chose, un mode de formation particulièrement intéressant quand on travaille sur les parcours. Parce que c'est un mode de formation qui finalement met autour de la table un ensemble de professionnels, de champs d'action différents, et ça permet en travaillant autour de situations de parcours complexes, d'échanger, d'avoir des regards croisés, des perceptions, que chacun exprime ses difficultés, de prendre conscience du rôle des uns et des autres en faisant ça, et donc l'hypothèse derrière, c'est de pouvoir aussi mieux fonctionner ensemble, travailler ensemble. La révision du processus d'évaluation du handicap psychique, ça a été une action extrêmement structurante, extrêmement importante. L'évaluation du handicap psychique, c'est pas quelque chose de simple. Il y a pas mal de difficultés dans ce domaine-là. Ça peut mener à des difficultés d'évaluation, peuvent mener à des orientations qui finalement ne sont pas tout à fait adéquate par rapport aux besoins. Donc ça peut mener à des problèmes de qualité de prise en charge, de qualité de vie des personnes et donc des sources de rupture possibles. Ce travail-là a été fait, c'est appuyé sur les travaux du CEDIAS qui avaient été faits en Ile-de-France il y a quelques années et sur la notion d'une évaluation, d'un triptyque d'évaluation de la situation de handicap psychique à partir de la vie de la personne, de son entourage et des professionnels. Le GEM, les groupes d'entraide mutuelle, c'est une réponse extrêmement utile quand on parle parcours. Rompre l'isolement, faciliter l'insertion des personnes, c'est une réponse vraiment utile. Il y avait un des territoires qui n'avait pas de groupe d'entraide mutuelle et ça a été l'occasion de pouvoir en créer un avec l'action, la mobilisation des acteurs. Et puis enfin, citer peut-être les travaux sur l'hospitalisation long cours, puisque ça a été des travaux conséquents qui ont été menés par le centre hospitalier Guillaume Régnier, enfin par les secteurs concernés par le projet, mais en lien avec la MDPH et en lien avec les acteurs sociaux, médico-sociaux, avec un travail d'analyse de situation d'hospitalisation long cours dans une unité d'hospitalisation prolongée. Et puis finalement, la mobilisation de l'ensemble des acteurs et un travail qui a mené à la sortie de 18 patients de cette hospitalisation au long cours sur la durée du projet. Et un travail derrière d'élaboration d'une convention type entre le centre hospitalier et les établissements médico-sociaux PH pour améliorer les interactions. Et puis, en fait, ces travaux-là ont vraiment stimulé l'élaboration, enfin la construction d'une filière intersectorielle hospitalisation prolongée au sein du CHGR, qui va maintenant concerner en fait l'ensemble de l'établissement. Alors, quelques points d'attention, au bout de ces deux années de mise en œuvre, enfin de la démarche. D'abord souligner que c'est une démarche qui implique un engagement fort des acteurs. C'est un temps conséquent, un degré d'implication qui a été croissant du diagnostic à la priorisation d'actions, à la mise en œuvre des actions. À chaque moment, c'est une implication. Ça demande du temps. Et en même temps, cet engagement-là, il a eu lieu. En tous les cas, dans notre expérience, il a eu lieu. Les acteurs ont été présents du début à la fin, se sont impliqués. Et c'est ça qui a permis de réaliser un certain nombre d'actions. Mais c'est un temps vraiment conséquent, alors notamment, évidemment, pour les pilotes, mais pas que, pour l'ensemble des acteurs. Il y a une difficulté à impliquer tout le monde. L'enjeu, c'est bien d'impliquer tout le monde. Parce que s'il n'y a pas tout le monde, on ne peut pas travailler vraiment sur le parcours. Donc l'enjeu, c'est bien d'impliquer tout le monde, mais ce n'est pas simple d'impliquer tout le monde. Dans notre expérience, on a eu une difficulté à impliquer l'échelon de la médecine générale. On avait prévu, y compris des modalités de dédommagement, de temps de réunion, de choses comme ça. On a pu avoir quelques réunions spécifiques avec les maisons de santé pluridisciplinaires. Ça a été très utile, très intéressant. Mais on n'a pas réussi à les impliquer suffisamment dans la réalisation d'actions après. Et puis, on a également eu le secteur médico-social non spécialisé sur le handicap psychique, je pense, n'avait pas perçu l'importance de ce type de démarche et donc n'était pas très présent au départ. Je pense qu'ils le perçoivent mieux maintenant. Un point sur le diagnostic partagé, alors on en a parlé, c'est un espèce d'équilibre à trouver entre le fait que le diagnostic partagé, c'est une étape, mais ça n'est qu'une étape. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas griller toute son énergie sur le diagnostic partagé. D'autant que les diagnostics, il y en a beaucoup, que voilà, comme certains l'ont déjà dit, vous en avez fait, vous en avez beaucoup fait, et donc en même temps, on sait déjà beaucoup de choses et on sait d'autant plus de choses qu'on se met tous autour de la table parce que le croisement des expériences de chacun permet quand même de faire remonter tout un tas de choses intéressantes qui permettent derrière de travailler. Mais en même temps, il ne faut pas mettre toute son énergie dessus, mais ça reste une étape qui est quand même à ne pas négliger parce que souvent, il y a eu des diagnostics, mais là, l'enjeu, c'est bien de faire un diagnostic sur les dysfonctionnements en termes de parcours. Donc, ce n'est pas forcément une habitude de travailler diagnostic dans ce sens-là, et ça reste intéressant et important. Et puis, c'est une étape qui, en tous les cas, dans notre expérience, a été extrêmement décisive ou importante pour la construction du partenariat. C'est-à-dire que c'est au sein, en faisant ces réunions sur le diagnostic, que petit à petit, les gens se sont écoutés, ont appris à se connaître, ont appris à se faire un peu confiance et ça a pu derrière aller plus loin. On peut identifier quelques facteurs peut-être favorables. Le plus important étant, je pense, la condition d'un partenariat équilibré et participatif de l'ensemble des acteurs concernés. Donc ça veut dire associer l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs du logement. C'est très important d'avoir les acteurs du logement dans la démarche, les représentants d'usagers et de familles, bien sûr. Et puis avoir une animation qui permette l'expression de tous sans qu'il y ait de hiérarchie. Il n'y a pas un acteur plus important que l'autre. Bien sûr, l'engagement du pilotage, quel qu'il soit. Le support institutionnel favorable, c'est important aussi d'avoir que la démarche soit légitimée et que éventuellement il y ait des prises de décision à certains moments pour être en appui à la démarche. Et puis, ce qui nous a semblé aussi intéressant et important, c'est la mise en œuvre priorisée d'actions qui donnent du sens, c'est-à-dire voilà, essayer assez vite d'aller sur des actions qui montrent, qui donnent un peu, voilà, qui montrent qu'il y a moyen d'avancer et qui donc contribuent à maintenir la mobilisation et l'intérêt des acteurs, parce que ça ne marche que si les gens y voient un intérêt. Alors finalement, dernière diapo, la valeur ajoutée de la démarche. Je pense, pour moi, deux choses peut-être. C'est un, le pas de côté. C'est-à-dire, c'est le pas de côté de cette démarche parcours, c'est sortir de la logique structure et se centrer vraiment sur les difficultés de parcours, de santé, de vie des personnes concernées et la dynamique de changement que ça implique derrière. Et puis la deuxième chose, c'est la dynamique partenariale. Parce que quand on arrive à avoir une dynamique partenariale qui associe vraiment l'ensemble de ces acteurs qui sont concernés par la santé mentale, c'est un levier extrêmement puissant pour agir. Et c'est nous, en tous les cas, dans notre expérience, ça a débordé le cadre du projet. C'est-à-dire que cette dynamique partenariale sur ce petit territoire projet, ça a vraiment facilité, alors non seulement ça a permis de mettre en œuvre certaines actions, mais au-delà de ces actions, ça a facilité les rapports, les interactions entre acteurs. Donc ça a légitimé certaines actions ou orientations de projets d'établissement qui ne se mettaient pas forcément en œuvre spontanément. Ça favorise les synergies entre différents projets. Donc cette dynamique-là est extrêmement intéressante et utile. Merci.
Merci pour cette présentation.